Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dans notre série de discussions actuelles, nous suivons le cheminement spirituel de l'apôtre Pierre, tel qu'il nous est révélé dans les évangiles.
Nous allons commencer par une lecture biblique relatant un incident intervenu dans la vie de l'apôtre Pierre, et nous enchaînerons avec une interview imaginaire où notre invité Étienne jouera le rôle de l'apôtre Pierre.
Jésus s'adressa à Simon Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi !»
Nous venons d'écouter la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Pierre, pouvez-vous nous rappeler les circonstances qui ont conduit à l'entretien que nous venons d'écouter?
Oui, ce fut lors d'une occasion où Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est présenté à nous, le petit groupe de disciples que nous formions. À ce moment-là, Jésus m'a pris à part. Il devait ressentir que je ne me sentais pas très bien. En effet, j'étais fort triste.
Mais pourquoi être triste quand la résurrection procure joie et espérance?
En fait, je me sentais mal à l'aise en la compagnie de Jésus. Je ne savais pas non plus comment m'approcher de lui. Et ceci à cause de l'attitude qui fut la mienne la nuit où il fut arrêté.
Rappelez-nous ce que vous vous reprochiez.
Alors que j'avais promis à Jésus de le défendre, je n'ai pas tenu ma parole. Durant cette même nuit, aussi un peu plus tard, lorsque certaines personnes m'ont demandé si j'étais un de ses disciples, j'ai nié le connaître. Or, en cet instant précis, le regard de Jésus a croisé le mien et s'est posé sur moi. Jésus m'a regardé, et son regard exprimait qu'il m'avait vu. Il savait que j'avais menti à son sujet. C'est au moment où il avait le plus besoin de mon soutien que je l'ai totalement abandonné. J'ai vécu ces moments comme un échec terrible. J'en ai pleuré amèrement.
Donc, lors de cette rencontre avec le Christ ressuscité, vous vous sentiez absolument brisé et vous craignez ce qu'il allait vous dire.
Tout à fait. Je me demandais s'il pourrait encore me pardonner ou m'accepter en tant que disciple.
Jésus vous a alors pris à part, car il voulait s'entretenir seul avec vous. Par trois fois, il vous a demandé si vous l'aimiez. Qu'avez-vous compris à travers sa question insistante?
J'avais renié Jésus trois fois. Or, Jésus m'a posé la question « M'aimes-tu ?» trois fois, afin que je réalise pleinement du fond de mon cœur combien je l'aimais. De plus, lorsque Jésus me posait cette question, je réalisais que son amitié envers moi n'avait pas changé et qu'il m'avait pardonné. Il ne m'a pas accueilli auprès de lui pour me faire des reproches ou pour m'exclure loin de sa présence. Non, il s'est approché de moi afin de me relever et m'assurer que l'amour qui nous liait était inébranlable.
Puis, Jésus vous a répété trois fois « Prends soin de mes brebis ». Que voulait-il dire?
Une fois de plus, Jésus voulait me rassurer et me renouveler. J'allais, en fait, devenir un des responsables de l'Église sur le point de naître à Jérusalem, et en tant que tel, je devais veiller sur ces chrétiens et les enseigner. du fait que j'avais renié Jésus trois fois, je doutais qu'il puisse encore m'accorder un tel privilège, celui de le servir ainsi. Je pensais que mes fautes étaient si graves qu'elles me disqualifiaient dans le service auprès de Dieu, que Jésus ne pourrait plus jamais me compter parmi ses disciples.
Donc si Jésus vous demandait de prendre soin de ses brebis, c'était la preuve que vos pensées n'étaient pas fondées et que ses projets vous concernant n'avaient pas changé.
Tout à fait. Puis Jésus m'a annoncé quelques prophéties me concernant, notamment que, comme lui, je subirais la persécution, l'emprisonnement, et que je mourrais en martyr.
Cela a dû être difficile à entendre.
Oui, mais quelque part, j'en ai tiré un encouragement. J'avais manqué de courage et renié Jésus, et voilà que mon Seigneur déclarait que je mourrais en martyr. Je comprenais, à travers ses paroles, que désormais je lui serais fidèle, que j'aurais le courage de demeurer ferme dans mes convictions.
Ah oui, je comprends. Pierre, au début de cet entretien avec Jésus, vous ressentiez la tristesse, vous éprouviez des angoisses. Mais qu'avez-vous éprouvé ensuite?
Le lourd fardeau qui pesait sur mes épaules est tombé. Le pardon de Jésus a chassé tous mes sentiments de culpabilité. J'ai pu retrouver la paix et la joie. Je pouvais encore envisager l'avenir avec espérance. Je voulais de nouveau marcher aux côtés de Jésus pour accomplir la mission qu'il me confiait.
Quel changement! C'est comme la nuit et le jour.
C'est exactement cela. La présence rassurante de Jésus était comme le soleil qui se lève pour faire disparaître les ténèbres et les tourments de la nuit.
Pierre, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire part de ces événements, mais quelles leçons nos amis auditeurs peuvent-ils en tirer?
J'ai beaucoup appris sur la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour immérité. Tous, nous pouvons chuter, nous pouvons nous éloigner de Dieu, commettre des fautes très graves. Cependant, si nous aimons le Seigneur, tôt ou tard, nous réaliserons le mal que nous avons commis et nous le regretterons amèrement. Des pensées négatives peuvent alors surgir, nous affliger, nous faire croire que nous sommes tombés trop bas pour être pardonnés. Or, Jésus, dans sa grâce, nous affirme que non, cela est impossible. Son amour est plus grand, plus fort que le plus grave et le plus terrible de nos péchés. Christ, dans sa miséricorde, est capable de venir nous chercher et nous relever là où nous sommes. Nous pouvons penser qu'à force d'offenser le Seigneur et de mépriser sa sagesse et ses commandements, il finira par nous rejeter, nous abandonner. Si nous ployons ainsi sous le poids de la culpabilité, c'est la preuve que notre conscience est attristée d'offenser Dieu et qu'au fond de notre cœur nous aimons Jésus. Alors, ne craignez rien. Jamais Jésus ne vous rejettera. Mais il viendra à vous dans le but de rétablir cette relation avec lui que vous avez brisée ou négligée. Nous pouvons aussi croire que si nous avons failli devant Dieu ou que nous vivons un échec cuisant sur le plan spirituel, nous sommes disqualifiés pour le service de Christ. Nous pouvons alors penser que nous ne valons plus rien, que nous ne sommes pas dignes de tenir des postes de responsabilité dans l'Église. Une fois encore, si le véritable chrétien regrette amèrement ses actes pécheurs, Christ, dans sa grâce, le relèvera et il fera de lui un serviteur bon et utile.
Pierre, vous mettez beaucoup l'accent sur le fait de regretter amèrement ses fautes.
Oui, j'y vois là une preuve de notre véritable amour pour le Seigneur. Si nous n'avions pas de regrets, si nous continuions à vivre dans le péché ou poursuivions notre vie comme si de rien n'était, nous pourrions remettre en question notre attachement à Jésus. Ceux qui demeurent insensibles aux fautes graves qu'ils commettent ne peuvent pas prétendre être de véritables chrétiens. Car ils ne peuvent pas avoir compris la gravité de leurs péchés, ni à quel prix Jésus a souffert sur la croix pour obtenir leur pardon. Ainsi ne pourront-ils pas bénéficier de la grâce de Dieu.
Merci Pierre de nous avoir expliqué ces choses. Il peut nous arriver continuellement de pécher et ainsi d'abuser de la grâce de Dieu. Oh, vous nous avez mis en garde contre un tel comportement et redonné espoir si nous réalisons la gravité de nos fautes.
Merci Yann et merci Étienne d'avoir joué le rôle de Pierre. Nous rappelons que l'interview que vous venez d'entendre est imaginaire, mais que les réponses données par Pierre restent tout à fait vraisemblables. Elles cherchent à donner vie aux événements réellement vécus, trouvés à travers les récits des évangiles.
Bien plus tard dans sa vie, l'apôtre Pierre a écrit deux épîtres adressées aux chrétiens de son temps. Lors de cette série, nos discussions porteront sur le cheminement spirituel de Pierre, tandis que nos méditations bibliques porteront sur l'enseignement de ses écrits. Hélène va nous lire la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11.
Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme, livré à lui-même.
Ceux qui habitent dans les grandes villes savent que les immigrants ont tendance à se regrouper dans un même quartier. En se promenant dans les rues où ils logent, il est souvent facile de les identifier, de comprendre que ces hommes, ces femmes viennent d'un pays autre que le nôtre. Nous les reconnaissons à leur langue, leur façon de s'habiller, les odeurs de leur cuisine. Ces personnes vivant dans un pays qui leur est étranger gardent souvent leur propre culture, leurs propres coutumes, leurs propres mœurs et demeurent ainsi différents. Or, selon l'apôtre Pierre, le chrétien est comme un voyageur dans ce monde. Il y demeure en résident temporaire, en étranger. Le chrétien appartient à Dieu. Il est citoyen du royaume céleste. Dieu tient en réserve pour lui une habitation céleste. De même que l'immigré est reconnaissable dans le pays qu'il accueille par sa culture, le chrétien, lui, dans le monde, doit aussi être reconnaissable. Il doit être différent de ceux qui l'entourent, pas nécessairement dans sa façon de s'habiller ou de faire la cuisine. Cette différence réside dans sa façon de se conduire, dans sa manière de se comporter. Nous devons faire de la volonté de Dieu une priorité. Mais quelle est la volonté de Dieu ? Pierre cite ce que l'Éternel déclare à ce sujet. « Soyez saints, car je suis saint. » Être saint, c'est être différent. Être saint, c'est désirer demeurer pur dans un monde impur. Être saint, c'est vouloir être juste dans un monde injuste. Être saint, c'est rechercher l'intégrité et l'honnêteté dans un monde où le mensonge et la tromperie abondent. Être saint, c'est maîtriser sa langue, c'est réfléchir à ses gestes dans un monde où la colère et la violence éclatent trop facilement. Le chrétien ne doit pas oublier qu'il est enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle. Quelle identité merveilleuse ! Doté d'un tel privilège, il nous incombe de vivre à la gloire de Dieu.
Merci Robert. Nous terminons ainsi notre première série sur la vie et l'enseignement de l'apôtre Pierre. Nous avons suivi son cheminement spirituel tel qu'il nous est révélé dans les évangiles.
Nous envisageons dans l'avenir de reprendre la suite de son histoire afin de suivre le cheminement spirituel de l'apôtre Pierre à travers les actes des apôtres.
En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.